Bonjour à chacun. Nous trouvons dans le livre des Proverbes le proverbe suivant au chapitre 14, verset 30. Un cœur calme est la vie du corps, mais la jalousie est la carie des os. Et la Bible du Semeur traduit un cœur paisible contribue à la vie du corps, mais l'envie est comme une maladie qui ronge les os. Si, comme le dit ce proverbe, il y a des attitudes, des comportements, des états d'âme qui favorisent la santé physique, comme ici un cœur paisible, il y en a d'autres comme la jalousie ou l'envie qui sont comme une maladie qui nous ronge de l'intérieur. Oui, la jalousie et l'envie sont un poison pour le corps et pour l'âme. Elles sont aussi un poison pour les relations humaines. L'apôtre Jacques écrit à ce sujet dans son épître, chapitre 3, verset 16, « Car là où il y a de la jalousie et un esprit de rivalité, il y a également du désordre et toute espèce d'action ou de mauvaises actions. » Le récit que nous allons considérer ce matin dans notre série sur Jacob va tristement illustrer ce pouvoir néfaste de la jalousie et aussi celui d'un esprit de rivalité. En effet, après nous être arrêtés la dernière fois au double mariage de Jacob avec Léa et Rachel, nous allons voir aujourd'hui comment la jalousie de l'une et la détresse affective de l'autre, son désir d'être aimé, vont pousser les deux sœurs dans une rivalité intense et une course effrénée à la maternité. Je vous invite à lire, en tout cas je vous invite à écouter la lecture, peut-être à lire aussi sur votre téléphone ou dans votre Bible. Le passage que nous allons méditer, nous sommes dans Genèse au chapitre 29. Nous commençons la lecture au chapitre 30, au verset 31. Pardon, et nous allons jusqu'au verset 24 du chapitre 30. Le Seigneur vit que Léa n'était pas aimée et il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Léa fut enceinte. Elle mit au monde un fils qu'elle appela du nom de Ruben. « Regardez un fils !» Car, dit-elle, le Seigneur a vu mon affliction. Maintenant, mon mari m'aimera. Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a donné aussi celui-ci. Et elle l'appela du nom de Siméon, entendu. Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, cette fois enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils. C'est pourquoi il l'appela du nom de Lévi attaché. Elle fut encore enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, cette fois je célébrerai le Seigneur. C'est pourquoi elle l'appela du nom de Judas célébré. Elle cessa d'avoir des enfants. Lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait pas d'enfants à Jacob, elle fut jalouse de sa sœur. Rachel dit à Jacob, « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir. » Jacob se mit en colère contre Rachel. Il dit, « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» Elle dit, « Voici ma servante, Bilha, va avec elle, qu'elle accouche sur mes genoux, et que par elle j'ai aussi des fils. » Elle lui donna pour femme Bilha, sa servante. Jacob alla avec elle. Bilha fut enceinte et donna un fils à Jacob. Rachel dit, « Dieu m'a rendu justice. Il m'a entendu et il m'a donné un fils. » C'est pourquoi elle l'appela du nom de Dan, juge. Bilha, servante de Rachel, fut encore enceinte et donna un deuxième fils à Jacob. Rachel dit, « J'ai livré un combat surhumain contre ma sœur et je l'ai emporté. » Elle l'appela du nom de Nephtali, combat. Léa, voyant qu'elle avait cessé d'avoir des enfants, prit Zilpa, sa servante, et la donna pour femme à Jacob. Zilpa, servante de Léa, donna un fils à Jacob. Léa dit, « Quelle chance !» Et elle l'appela du nom de Gad, « chance ». Zilpa, servante de Léa, donna un deuxième fils à Jacob. Léa dit, « Quel bonheur pour moi ! Les filles me déclareront heureuse !» Et elle l'appela du nom d'Azer, « bonheur ». Ruben sortit au jour de la moisson des blés et trouva des mandragores dans les champs. Il les apporta à Léa, sa mère. Alors Rachel dit à Léa, « Donne-moi, je te prie, quelques-unes des mandragores de ton fils. » Elle lui répondit, « Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari, que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ?» Alors Rachel dit, « Eh bien, qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » Comme Jacob revenait des champs, le soir, Léa sortit à sa rencontre et dit, « C'est avec moi que tu iras, car je t'ai engagé au prix des mandragores de mon fils. » Il coucha donc avec elle cette nuit-là. Dieu entendit Léa, elle fut enceinte, et donna à Jacob un cinquième fils. Léa dit, « Dieu m'a donné mon salaire, à moi qui ai donné ma servante à mon mari. » Et elle l'appela du nom d'Issacar, salarié. Léa fut encore enceinte et donna un sixième fils à Jacob. Léa dit, « Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari m'honorera, car je lui ai donné six fils. » Et elle l'appela du nom de Zabulon, honorable. Ensuite, elle mit au monde une fille qu'elle appela du nom de Dina. Alors Dieu se souvint de Rachel. Il l'entendit et la rendit féconde. Elle fut enceinte et mit au monde un fils. Elle dit, « Dieu a enlevé mon déshonneur. » Elle l'appela du nom de Joseph, ajouté, en disant, « Que le Seigneur m'ajoute un autre fils. » Nous passons au deuxième point, intitulé le récit, où nous allons simplement chercher à bien comprendre ce que nous venons de lire, ce qui se passe dans notre récit. Est-ce que vous aviez un doute au sujet du mariage sur le bien fondé de la monogamie? Ou encore sur les difficultés qu'engendre la polygamie? Notre récit nous montre, à mon sens, sans ambiguïté aucune, que les ménages à plusieurs ne sont ni bons, ni dans la volonté de Dieu. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas d'interdiction explicite de la polygamie dans la loi. On y trouve quand même, dans Lévitique 18:18, l'interdiction d'épouser simultanément deux sœurs. C'est vrai que la polygamie était largement pratiquée dans l'Ancien Testament et que Dieu l'a tolérée. Mais c'est vrai aussi et surtout que dès Genèse chapitre 2 et dans d'autres textes de l'Ancien et du Nouveau Testament, c'est le mariage monogame qui nous est présenté comme l'idéal du mariage. Pauvre Jacob. On en viendrait presque à le plaindre. Lui, le roublard, lui qui jusqu'ici était l'acteur principal dans sa famille, reléguée maintenant à jouer les seconds rôles et à être le spectateur des tensions au sein de son ménage à trois, puis à cinq. C'est un bien triste tableau que nous dépeint ce récit. Mais c'est malheureusement un tableau plein de réalisme, plein de notre condition humaine, remplie de souffrance, mais aussi d'espérance. Tout commence par la détresse de Léa. Léa souffre, dit le texte, parce qu'elle n'est pas aimée de Jacob. Et littéralement, c'est très fort dans le texte parce que le verbe qui est employé, c'est le verbe haïr. Léa est haïe, détestée de Jacob. La vie maritale s'annonce bien difficile pour Léa. Mais Dieu voit sa détresse. Et il la rend féconde. Rachel, elle, dit le texte, est stérile. Tout est donc en place pour que commence et s'exerce la grande rivalité des deux sœurs, des deux épouses de Jacob. À quatre reprises, Léa va donner naissance à un fils. Des naissances qui vont la consoler. Et puis surtout des naissances qui vont lui donner l'espoir qu'enfin son mari l'aimera. Les noms que Léa donne à ses fils traduisent ce que nous venons de dire, mais il souligne aussi que Léa est une femme de foi. Ainsi, elle nomme son premier fils Ruben, qui peut se traduire par « regarder un fils ». Car, dit-elle, « le Seigneur a vu mon affliction ». Maintenant, mon mari m'aimera. Léa attribue la naissance de Ruben à Dieu, à sa compassion pour elle. Dieu qui a vu son affliction et qui l'a exaucée. Et puis, étant donné l'importance d'un fils dans cette culture, Léa espère. Elle espère que la naissance de Ruben va engendrer enfin l'amour de son mari pour elle. « Maintenant, mon mari m'aimera, » dit-elle. Cet espoir, à l'évidence, je crois qu'on va tous se cotiser pour changer de télécommande et acheter quelque chose de performant parce que, voilà. Cet espoir, à l'évidence, s'est vite envolé, comme le souligne ce qu'elle dit à l'occasion de la naissance de son deuxième fils, Siméon. Siméon qui signifie « entendu ». Car, dit Léa, le Seigneur a entendu que je n'étais pas aimé. Et il m'a donné aussi celui-ci. L'amour espéré à la naissance de Ruben ne s'est pas produit. Léa n'est toujours pas aimée de Jacob. Mais la naissance de Siméon est pour elle le signe de la main de Dieu dans sa vie, de la connaissance que Dieu a de sa souffrance. Léa appellera son troisième fils Lévi, qui signifie « attaché », car dit-elle cette fois « enfin, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné trois fils ». Les deux premiers fils n'ont pas changé les sentiments de Jacob pour Léa. Est-ce que le troisième y parviendra? C'est l'espoir de Léa, qui a maintenant donné trois fils à Jacob, alors que Rachel, pendant ce temps-là, est toujours sans enfant. Mais ce n'est pas fini. Léa tombe une nouvelle fois enceinte et enfante un quatrième fils, qu'elle nomme cette fois-ci Judas, ce qui signifie « célébrer ». Car, dit-elle, cette fois, je célébrerai le Seigneur. Si l'amour de Jacob pour Léa ne grandit pas, celui de Léa pour Dieu semble, lui, bel et bien grandir au fur et à mesure. Alfred Kuhn écrit « Sa relation à Dieu semble s'approfondir au fur et à mesure de la naissance de ses enfants, qu'elle accepte comme des exaucements à ses prières. Après la naissance de Judas, Léa cesse d'avoir des enfants, dit le texte. Rachel, quant à elle, est toujours stérile. Elle a l'amour de Jacob. Elle est la bien-aimée de Jacob. Mais elle n'a pas d'enfant de Jacob. Et elle en souffre profondément. Sa souffrance d'être privée d'enfant, du bonheur d'enfanter, va se traduire par de la jalousie envers sa sœur. Et puis aussi par de l'incompréhension envers son mari, à qui elle finit par reprocher de ne pas lui donner d'enfant. Son mari, sur qui elle exerce une forme de chantage quand elle dit « Donne-moi des fils, sinon je vais mourir ». Si Léa a bien compris que c'est Dieu qui l'a rendue féconde, Rachel, par ses reproches à Jacob, se trompe clairement de responsable. Dans l'aveuglement de sa jalousie, Rachel en veut à Jacob comme s'il était Dieu. Jacob l'a bien compris, puisqu'il dit « Suis-je donc à la place de Dieu qui t'empêche d'avoir des enfants ?» L'attitude et la démarche de Rachel semblent bien différentes de celles de sa sœur. Rachel ne semble pas se tourner vers Dieu avec foi et persévérance. Elle va même chercher à régler la situation par une solution toute humaine, en offrant sa servante à Jacob pour qu'elle lui donne un fils, enfin un fils. Cette coutume de l'époque est bien attestée. Dieu semble l'avoir tolérée, puisque les enfants des servantes de Rachel et de Léa vont être inclus dans les patriarches, les 12 patriarches qui vont donner les 12 tribus d'Israël, inclus dans les 12 patriarches au même titre que les enfants directs de Léa puis de Rachel. Selon les traditions mésopotamiennes, on donnait toujours une servante à la femme qui se mariait au cas où l'épouse légitime ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle pourrait en obtenir par l'intermédiaire de cette servante. Alors le mari s'unissait à la servante et au moment de la naissance, l'épouse recueillait l'enfant entre ses propres jambes, comme si c'était elle qui venait de donner le jour à l'enfant. Et c'est ainsi, par ce rite d'adoption, d'une certaine manière, que l'enfant de la servante devenait l'enfant, devenait son propre enfant. Et c'est donc ainsi que Rachel va donner à Jacob sa servante Bilha pour femme. Et c'est ainsi que Bilha va accoucher de 2 fils, dont les noms vont traduire plus l'esprit de rivalité de Rachel que sa confiance en Dieu. Elle nommera le premier fils Dan, ce qui signifie « juge », car dit-elle « Dieu m'a rendu justice, il m'a entendu et il m'a donné un fils ». Elle nommera le second Nephtali, ce qui signifie « combat », car dit-elle « j'ai livré un combat surhumain contre ma sœur et je l'ai emporté ». On comprend bien ici que les tensions entre les 2 sœurs ne se sont pas apaisées au fil des années, au fil des naissances. On comprend bien que l'atmosphère devait être exécrable au sein de la famille de Jacob. J'ai livré un combat surhumain contre ma sœur et je l'ai emporté. Bonjour l'ambiance. Mais la course à l'échalote n'est pas finie. Léa n'a pas dit son dernier mot. Voyant qu'elle n'enfante plus, elle fait avec sa servante ce que Rachel vient de faire avec la sienne. Et c'est ainsi que Zilpa, sa servante, va donner 2 nouveaux fils à Jacob. Elle appellera le premier du nom de Gad, ce qui signifie chance, qu'on pourrait aussi traduire par quelle chance. Et elle appellera le second Azer, ce qui signifie bonheur, Et elle s'exclame « Quel bonheur pour moi !» Oui, clairement, l'état d'esprit de Léa et de Rachel ne sont pas les mêmes. La suite du récit va nous révéler que Léa et Rachel sont vraiment prêtes à tout. Si Léa a manifesté jusqu'ici une belle confiance en Dieu, il se trouve que les choses, comme souvent, sont plus mêlées que ça. Et c'est ainsi que nous découvrons l'utilisation par Léa et par Rachel de pratiques magiques et superstitieuses. Un jour, Ruben, le fils aîné de Léa, ramène des mandragores à sa mère. La mandragore, cette fameuse plante avec une racine anthropomorphique, c'est-à-dire avec une ressemblance de forme humaine, et qui est utilisée depuis la nuit des temps pour favoriser la fécondité, pour lutter contre la stérilité, ou alors tout simplement comme aphrodisiaque. C'est à l'évidence pour que sa mère tombe à nouveau enceinte que Ruben lui apporte des mandragores. Apprenant la chose, Rachel n'hésite pas à s'abaisser, parce que oui, il va falloir s'abaisser pour faire cette demande, et demander à Léa de lui en donner quelques-unes. La réponse de Léa est cinglante au verset 15. On dirait aujourd'hui qu'elle tire à balles réelles. Ne te suffit-il pas d'avoir pris mon mari, que tu prennes aussi les mandragores de mon fils ? Mais Rachel ne se laisse pas impressionner. L'enjeu est trop important. Le pouvoir attribué à la mandragore est de toute évidence extrêmement puissant à ses yeux. Et c'est ainsi qu'elle propose un marché à sa sœur à la fin du verset 15. Alors Rachel dit, « Eh bien qu'il couche avec toi cette nuit en échange des mandragores de ton fils. » C'est ainsi que Jacob devient le prix du marché conclu entre les deux sœurs. Et c'est ainsi que ce soir-là, Jacob va avec Léa, et c'est ainsi que Léa tombe à nouveau enceinte et donne un nouveau fils à Jacob. Notons qu'au verset 17, il est précisé que Léa est tombée enceinte car Dieu l'a entendue. C'est une belle manière ici de souligner que c'est Dieu qui donne la vie, et certainement pas les mandragores. Léa appelle ce nouveau fils du nom d'Issacar, ce qui signifie salarié, car dit-elle, Dieu m'a donné mon salaire, à moi qui ai donné ma servante à mon mari. Puis Léa tombe encore une fois enceinte et accouche d'un autre fils qu'elle nomme Zabulon, ce qui signifie honorable, car dit-elle, Dieu m'a fait un beau cadeau. Cette fois, mon mari m'honorera, car je lui ai donné 6 fils. Il est encore question de la naissance d'une fille, Dina, certainement pas la seule de la fratrie, mais la seule qui est mentionnée parce qu'elle interviendra un petit peu plus tard dans le récit. Nous sommes presque au bout de cette tragédie, où à l'évidence, les tensions se sont amplifiées au fil des années, au fil de cette course à la maternité. Pour l'heure, il y a 10 fils. 10 fils. Mais personne ne semble vraiment heureux. C'est le moment que Dieu choisit pour se souvenir de Rachel. Non pas qu'il l'avait oubliée. C'est juste une manière de dire que c'est le moment que Dieu choisit pour agir en faveur de Rachel. Dieu rend Rachel féconde et elle met au monde un fils qu'elle appelle Joseph, ce qui signifie ajouter, parce qu'elle dit ensuite que le Seigneur m'ajoute un autre fils. Cet autre fils viendra par la suite. Quand Jacob sera retourné en Canaan, ce sera Benjamin. À partir de ce récit que nous venons de parcourir, j'aimerais conclure avec 2 prolongements qui sont aussi 2 exhortations. 2 exhortations que j'aimerais formuler à l'aube de cette nouvelle année, dans la perspective de cette nouvelle année. Et le premier prolongement, la première exhortation concerne la jalousie et la rivalité dont il a été beaucoup question dans ce récit. En 2024, marchons sans rivalité ni jalousie. Oui, là où elles existent, la rivalité et la jalousie, ce sont des poisons pour notre âme, des poisons pour nos relations. Le récit que nous venons de considérer l'a montré sans détour, sans embâge. Mais peut-être ne nous sentons-nous pas concernés par ces poisons. Il est vrai que certaines personnalités sont certainement moins enclines que d'autres à ces choses. Mais la réalité, c'est que ces choses sont attachées à notre vieille nature, à notre chair. C'est-à-dire l'homme sans Dieu, l'homme livré à lui-même, ce que nous sommes par nature en Adam. Écoutons ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Galates au sujet de ce qui procède de la chair, de ce qui procède de l'homme livré à lui-même. J'ai mis en jaune les points avec lesquels on peut faire les parallèles avec notre texte. Paul écrit, tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Oui, en Adam, par nature, nous avons chacun de nous en nous le potentiel de faire toutes ces choses. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu désire que nous vivions si nous sommes son enfant. C'est pourquoi toujours dans Galates 5, l'apôtre nous exhorte à nous laisser diriger par le Saint-Esprit, à le laisser diriger notre vie afin de ne pas obéir à ses désirs qui animent l'homme livré à lui-même. Et puis toujours l'apôtre Paul, dans son épître aux Romains au chapitre 13, dans la perspective du retour du Seigneur, nous exhorte encore, entre autres, à vivre, dit-il, sans jalousie ni querelle. Faites ceci, d'autant plus que vous savez en quel temps nous vivons. C'est désormais l'heure de sortir de votre sommeil, car le salut est plus près de nous que lorsque nous avons commencé à croire. La nuit est avancée. Le moment où le jour va se lever approche. Débarrassons-nous de tout ce qui se fait dans les ténèbres et revêtons-nous de l'armure de lumière, l'armure de la lumière. Vivons comme il convient en plein jour, sans orgie ni beuverie, sans débauche ni immoralité, sans querelle ni jalousie. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même. Si dans Galates 5, il était question de laisser le Saint-Esprit diriger notre vie pour ne pas obéir aux désirs de la chair, de l'homme livré à lui-même ici, il est question de revêtir l'armure de la lumière, de revêtir le Seigneur Jésus. Dans quel but? La réponse nous est donnée à la fin du verset 14. C'est toujours le même, celui de ne pas satisfaire les désirs mauvais qui sont en nous, comme la jalousie ou les querelles qui viennent de cette nature pécheresse, de l'homme livré à lui-même. Si en tant qu'enfants de Dieu, nous devons résolument choisir jour après jour de laisser Dieu diriger notre vie, nous devons aussi en parallèle choisir jour après jour d'abandonner les habitudes de l'homme que nous étions sans Dieu. choisir jour après jour de nous débarrasser de tout ce qui se fait dans les ténèbres, choisir jour après jour de ne pas satisfaire les désirs de l'homme livré à lui-même, les désirs mauvais qui sont en nous et qui ne cessent de nous attirer. Chers amis, vous et moi, nous n'allons pas maîtriser les circonstances de cette nouvelle année. Nous ne savons pas de quoi 2024 sera fait. Par contre, nous pouvons maîtriser nos choix de vie, en particulier les choix qui sont inhérents à la marche de la foi. Alors il faut que nous nous posions cette question. Qui chercherons-nous à satisfaire en 2024? Qui chercherons-nous à satisfaire en 2024? Le Seigneur ou les désirs de notre nature pécheresse? En 2024, marchons comme en plein jour. Marchons sans querelle ni jalousie. Marchons en revêtant le Seigneur, en laissant le Saint-Esprit diriger notre vie. Ce sera pour sa gloire et ça sera pour notre bien. Je termine avec un deuxième prolongement, une deuxième exhortation. En 2024, marchons avec confiance et persévérance aussi, mais et espérance. Car Dieu tient vraiment toute chose dans sa main et il accomplira sa volonté et ses promesses. Dans le récit de Jacob que nous avons considéré ce matin, Dieu a manifestement accompli sa volonté. Ainsi, il a assuré la descendance qu'il avait promise à Abraham, Isaac et Jacob. En tout cas, les fondements de cette descendance. Il a posé les fondations des 12 tribus d'Israël, son peuple de l'ancienne alliance. En effet, les 11 fils de Jacob, plus Benjamin qui sera ajouté par la suite, vont devenir ces 12 piliers, ces 12 patriarches, ces 12 tribus d'Israël. Oui, Dieu a accompli sa volonté. Et j'aimerais souligner qu'il l'a fait malgré plusieurs choses. Premièrement, malgré notre tendance, notre fâcheuse tendance à vouloir nous passer de lui. Nous l'avons vu dans le récit, quand Rachel accuse Jacob d'être stérile, quand elle et sa sœur recourent à leur servante pour avoir des fils, ou encore quand elles utilisent les mandragores pour essayer de tomber enceinte. Oui, nous avons tendance à vouloir faire sans Dieu, mais cela n'empêche jamais Dieu de réaliser sa volonté. Deuxièmement, il accomplit toujours sa volonté malgré notre péché. Faire sans Dieu, c'est déjà péché. Mais il faut ajouter à cela tout ce que nous avons vu dans notre texte, comme la jalousie, la haine, la rivalité, et j'en passe. Bref, tout ce qui vient de la chair, de l'homme livré à lui-même. Mais Dieu n'est jamais limité par notre péché et sa volonté s'accomplit toujours. Bien sûr, cela ne veut pas dire que nous pouvons pécher à loisir, mais cela veut dire que Dieu n'est jamais coincé par notre péché, par nos mauvais choix. Quoi que les hommes fassent, sa volonté s'accomplira toujours. Troisièmement, il s'accomplit toujours, il accomplit toujours sa volonté malgré tout ce qui pourrait faire obstacle. C'est ici qu'il faut rappeler que dans notre texte, bien des choses n'allaient pas au départ dans la bonne direction. Pensons à l'amour exclusif de Jacob pour Rachel. Pensons à la haine de Jacob pour Léa. Pensons à la stérilité de Rachel. Ce n'était pas gagné d'avance. Mais Dieu est au-dessus de tout cela. à tel point que Léa qui n'était pas aimée, Léa qui était haïe, va devenir la mère directe ou indirecte de 8 des 12 patriarches. C'est incroyable. Quel retournement de situation. Dieu ne s'est pas retrouvé coincé par les choix de Jacob. Et notons que non seulement 8 des 12 tribus viendront directement ou indirectement de Léa, mais dans ces 8, il y a les deux plus importantes. La tribu royale de Juda, de laquelle viendra David, puis le Seigneur Jésus, et la tribu sacerdotale de Lévi, de laquelle viendra toute la lignée des sacrificateurs et des Lévites. Que faut-il retirer de tout cela ? Certainement que Dieu est véritablement souverain et qu'il est tout-puissant. Certainement qu'aucune situation n'échappe à son contrôle. Certainement aussi que sa volonté s'accomplit toujours. À l'aube de cette nouvelle année, il est bon pour nous de nous en souvenir. Notre société, notre économie et bien d'autres choses ont connu des jours meilleurs. Notre monde semble en proie à un chaos toujours plus grand. Certains puissants de ce monde semblent tenir les cartes maîtresses dans leurs mains. Mais ne nous y trompons pas. C'est Dieu qui est le maître du jeu. C'est Dieu qui tient toutes choses dans sa main. C'est lui qui dirige l'histoire des hommes vers sa finalité, vers le retour de Jésus-Christ et vers le jugement final. C'est lui qui tient le monde dans sa main comme nous le chantons parfois. Et ce qui nous paraît inextricable et insoluble peut être changé d'un seul mot de sa part. C'est pourquoi même si l'avenir peut sembler bien sombre, même si humainement parlant, nous avons de bonnes raisons de nous inquiéter, nous pouvons regarder à demain, après-demain et à toute cette année 2024 avec confiance, parce que Dieu est souverain, parce qu'il tient toutes choses dans sa main, tout comme il tenait la vie de Jacob, de Léa et de Rachel dans sa main. Alors oui, en 2024, marchons avec confiance et espérance, parce que Dieu continue de tenir toutes choses dans sa main, malgré les apparences parfois contraires. Parce que n'en doutons pas, Dieu accomplira sa volonté en 2024. Parce que Dieu fera en 2024 concourir toutes choses pour la réalisation de son plan. Et puis parce que Dieu sera avec nous, comme il l'a promis, tous les jours de 2024 et jusqu'à la fin des temps. Amen.